Jules Hermina, Histoires incroyables, Le Testament. Ah, quoi? Vous savez pas la nouvelle? Non, vraiment? Alors vous n'avez pas lu? Lu? Le Sunday Herald? Non, sur ma foi. Ah, alors je comprends que vous ayez l'air indifférent. Mais quand vous saurez... Oh, oui, j'ai des occupations, ne me retenez pas inutilement. Inutilement. Après une pause. Il est mort. Il n'y a dans aucune casse d'imprimerie de lettres assez fortes, assez grasses, assez monumentales pour accentuer cette « il ». Il, vous comprenez bien, il ne s'agit pas du premier venu, de celui-ci ou de celui-là, de vous, de moi, de l'homme qui passait hier dans la rue. Cet « il » constitue à lui seul tout un drame. Il résume toute une situation. Il est comme le Dieu des chrétiens. Il est celui qui est, ou plutôt qui a été, celui qui seul préoccupe, qui seul intéresse, dont le nom seul vibre au moindre effort dans celui qui l'a entendu. Il, c'est celui dont nos deux interlocuteurs sont les héritiers. Oh, point n'a été besoin de le nommer, il est mort. Et qui donc peut être mort sinon lui? Que le ciel tombe sur la tête de toute l'humanité, que m'importe, mais qu'une chiquenaude l'ait blessé, lui. Vous n'aurez pas besoin de me raconter le fait. L'indiquer suffira, je devinerai tout, plus encore même. J'inventerai, je supposerai. Il est mort et enterré, n'est-ce pas? Il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est bien fait, bien achevé, bien complet. Et l'héritier ferme à demi les yeux. Gourmet qui déguste, il répète tout bas ces trois mots. Il est mort, mort, mort. Comme il est possible, voire même probable, que le lecteur n'est pas doué de cette faculté toute spéciale à cet animal qui a nom héritier, je ne le tiendrai pas en suspens. Il, c'est Arthur Simpson du Kentucky, grand propriétaire riche de 3 millions de dollars. Des deux héritiers, l'un a dit d'abord « Ah !» et l'autre a répondu « Quoi ?»« Ah !» s'appelle Georgie Simpson. C'est le propre cousin d'Arthur. Quoi, c'est Master Julius Tiresome, cordonnier, et non point propre cousin du mort. Point cousin d'un mort quelconque, d'un mort de contrebande, d'un mort de médiocre catégorie. Loin de là, le mort appartient à une classe super fine. C'est le mort aux 3 millions. Et, se disent-ils, nous sommes son cousin. Et comme Georgie Simpson, épicier, était sûr de son effet, comme il s'est du premier saut élevé au plus haut sommet de l'art éloquentiel, il a gradué ses effets. Un homme qui se sentait déjà propriétaire de quelques centaines de mille dollars ne dit pas brusquement, naïvement, « Eh, vous savez, le cousin Simpson est mort. Fi donc, cela est bon pour les petites gens. » Hier, oui, mais aujourd'hui, c'est écrit en toutes lettres dans le Sunday Herald. Voyez plutôt. L'honorable Arthur Simpson du Kentucky est mort subitement ce matin. On attribue son décès à la rupture d'un anévrisme. On se rappelle que M. Simpson était l'ami de notre regretté Turnpike, auquel la jeune Amérique est redevable de tant de progrès industriels, et qui, dans sa reconnaissante affection, avait laissé à Arthur Simpson sa fortune évaluée à un capital d'au moins 3 millions de dollars. 3 millions, c'est imprimé, nous ne l'invotons pas, et nous sommes son cousin. Ils sont en face l'un de l'autre. Il y a un moment d'arrêt. Qui parlera le premier maintenant? Et que dira-t-il? Il serait peut-être convenable de prononcer quelques paroles de regret, car, après tout, quoi que nous soyons ses héritiers, ce n'était pas moi un homme, et puis de son vivant, nous n'avons jamais eu à nous plaindre de lui, et puis... Mais ces deux hommes se regardent. Un même sentiment les agite, les envahit, et ils partent tous les deux d'un éclat de rire. La glace est rompue, sans dire un mot, ils rient et se serrent les mains. N'insistez pas, ils danseraient. Un nuage sur ces deux fronts, une pensée nouvelle et attristante. Serait-ce donc un remords de cette joie inconvenante? Après tout, ce premier mouvement était peut-être involontaire, nerveux, comme l'on dit. On a vu les plus grandes douleurs se manifester par le rire. Mais ne croyez point cela. C'est plus naturel, et la pensée qui jette sur leur visage cette teinte grisâtre et mélancolique, ombre qui voile un soleil naguère si radieux, se formule ainsi. Il y a d'autres parents. Cette pensée fait l'âme. Elle tombe sur le gâteau d'héritage comme un couteau à plusieurs tranchants et le divise en tranches qui, au premier coup d'œil, paraissent imperceptibles. Ils ne se sont rien dit, ces deux hommes, ils se répondent. « Ah oui, il y a Smithlake, et Mistrock, et Stenay !» Calcul rapide, 3 et 2 font 5, 3 millions divisé par 5 reste à chacun 600 000 dollars. Eh, en somme, 600 000 dollars, c'est encore un chiffre, pas vrai, compère? Mais oui, et le nuage s'écarte et le soleil reparaît. Ces intrus, intrus est le mot, savent-ils la nouvelle? Non, évidemment. Et si on pouvait la leur cacher? Ah, mais ce serait une victoire. Mais basse, les solliciteurs vont prendre l'affaire en main, ils s'y chargeront et ils trouveront. Il est donc inutile d'y songer, à moins que... Oh, dame, on ne sait pas, nous sommes tous mortels. Depuis combien de temps les avez-vous vus, compère? Si peu de temps que cela, oh, c'est fâcheux. Du moins, y aurait-il quelque intérêt à prendre des informations? Voyez, il ne peut y avoir de satisfaction complète, et puis Miss Strock avait une si mauvaise santé. Oh, vous verrez qu'elle mourra dans quelques mois. Et ce seront de nouveaux embarras, des dérangements. On aurait bien mieux fait, enfin, encore des ennuis en perspective. Mais d'autre part, s'ils ne savent pas le fait, ils ne vont pas se déranger, ils ne se hâteront pas. Et qui portera la peine de leur lenteur? Nous encore. Examinez cela. Voilà des gens qui ne songent à rien, qui ne lisent seulement pas les journaux, et grâce à leur incurie, à leur inintelligence, à leur bêtise, nous serons obligés d'attendre leur bon plaisir. On ne va pas s'établir si loin que cela quand on est cohéritier d'un homme qui peut, enfin, qui doit mourir en vous laissant 600 000 dollars. On s'occupe de ses affaires, by God. On n'est pas là stupidement à attendre que les grogs au rhum nous arrivent tout sucrés. Enfin, ils sont comme cela, nous ne les changerons pas. Il n'y a qu'une chose à faire, compère. Eh oui, il faut les avertir, et le plus vite possible. Nous porterons le timbre-poste en dépense. Écrire, oui, si les lettres se perdaient, et si seulement elles éprouvaient du retard. Oh, décidément, le mieux est d'aller les chercher. Pas un voyage de quelques jours, c'est pas une affaire. Puis ainsi, ils n'hésiteront pas. Nous leur montrerons le journal, ils monteront immédiatement en chemin de fer. Nous les ramènerons de gré ou de force. Ils n'ont aucun droit de résister. Ils nous appartiennent. Ils font partie de nous-mêmes. Convenu, compère, allez, rentrez chez vous, prenez un gros paletot et partons. Une heure après, Georgie Simpson et Julius Tyersom se rencontrent à la gare du Midland Railway et chacun jette sur son compagnon de voyage un regard rapide. Pourquoi regrette-t-il de le voir si bien enveloppé? À chaque pas, l'homme trébuche dans l'imprévu. Voyez la face de Charlie Simpson. Ses yeux se sont démesurément ouverts. Évidemment, il y a quelque chose. Voilà qu'il pousse du coude Julius Tyersom. Et ce ne sont plus deux yeux, mais bien quatre, qui dardent sur un même point leurs regards atterrés. Suivons le rayon lumineux qui s'élance de ses quatre prunelles et converge en un même centre. Au bout de ce regard, une porte, et sur cette porte deux mots, « way out », c'est-à-dire « sortie, arrivée ». La porte fait cadre, dans ce cadre, trois êtres humains. Trois noms prononcés par nos deux regardeurs. Smith Lake, Mistrock et Steiney. Puis fusion de ces cinq personnages en un seul groupe. Deux disent « Nous allions vous chercher » et les trois autres répondent « Nous venions vous avertir. » « Ah, vous savez donc ? Pardieu, pourquoi pas ? Est-ce que vous avez la science infuse ?» Qu'ils se disputent ou non, peu nous importe. En vérité, ces héritiers semblent d'assez bonnes compositions. Ils rentrent en ville et trouvent au domicile de Simpson une lettre ainsi conçue. Les héritiers de Sir Arthur Simpson, du Kentucky, décédés le... sont invités à se présenter lundi prochain à l'office de Thomas Hitter, Solicitor, à 10h du matin, pour assister à l'ouverture du testament holographe laissé par le défunt. Signé Thomas Hitter, Solicitor. Ils n'ont eu garde, comme bien on peut le penser, de manquer un rendez-vous assigné par l'homme de loi. Est-il rien de plus intéressant que l'ouverture d'un testament pour des héritiers ? Pour le testament, l'amant, s'il était héritier, déserterait le premier rendez-vous accordé par la maîtresse. Le commis a désigné du doigt les pièces. Mais il est bien volumineux, ce testament. Voyez donc, c'est une sorte de livre, les feuilles s'ajoutent aux feuilles. Diable de bavard! Il était si simple d'écrire trois lignes, je lègue, etc., avec l'indication des biens. À mes héritiers, ci-dessous dénommés, et puis une liste des parents. Si quelques lignes de plus étaient nécessaires, c'eût été pour des dispositions particulières, l'indication d'une faveur faite à l'un des héritiers. Mon Dieu, on en serait encore passé par là. Mais il y a au moins 100 pages. 100 pages pour 5 héritiers, 3 malheureux millions de dollars. Prodigalité! Et il va nous falloir entendre tout cela. Des phrases, comme dit le poète. Après tout, c'est l'affaire de 2 heures, peut-être 3. Mais encore, c'est du temps perdu. Et ils ont affaire, ces héritiers. Un héritier n'est donc plus un homme. Il ne s'appartient donc plus. Il est donc devenu la propriété, la chose du mort, que celui-ci puisse ainsi disposer de son temps, d'une portion de son existence. Vraiment, ces morts ont d'incroyables façons d'agir. Chut ! Le moment est solennel. Le solliciteur, assisté d'un de ses confrères, est entré dans son office. Il a salué en rond les héritiers qui se sont inclinés jusqu'à terre devant le représentant, non du testateur, mais du testament. Il a un singulier visage, Master Thomas Hitter. Il est pâle alors que ses confrères sont d'ordinaire gras et grosses. Ses yeux sont caves et cerclés de noir, comme le bout d'une lorgnette. Sa lèvre a des plis incompréhensibles. Ce n'est pas le sillon du rire non plus que le rictus de la souffrance, non. Cet homme vraiment est funèbre. Évidemment, il n'a pas lu le testament, il ne l'a pas lu puisqu'il était cacheté. Et cependant, les héritiers interrogent ce visage comme si une impression fugitive pouvait être surprise. Mais voilà qu'il s'est assis. Il est 10 heures du matin, c'est un jour sombre que d'épais rideaux rendent plus obscur encore. Comment pourra-t-il lire ? En vérité, il semble qu'il lui manque la clarté nécessaire. Et cependant, il ne paraît point s'en préoccuper. Il prend le manuscrit, déchire l'enveloppe, le pli de sa lèvre se dessine plus profond et plus inexplicable. Ses yeux se portent sur la première page. Il commence. Il lit. Dernière volonté. En réalité, le mot est comique et j'ai presque ri en l'écrivant. Volonté. Mais je ne veux rien, ou du moins je ne veux plus rien. En 30 années, j'ai épuisé tout ce qui était en moi de force volitive, Et j'ai voulu, oh, n'en doutez pas, plus et plus âprement que jamais homme n'a voulu en ce monde. Dernière volonté, non, une simple narration, un récit, dirais-je, une confession. Oh non, ce mot serait encore plus burlesque que le précédent. Confession, contrition, repentir. En repentir, vilaine et petite chose, amoindrissement du moi, comme si aujourd'hui je ne tenais pas encore ce que j'ai fait autrefois. En vérité, à cette pensée, je me sens plein de je ne sais quel satanique orgueil. Me repentir, allons donc. J'ai agi parce qu'il m'a plu d'agir, parce que toutes les forces de mon être convergeaient vers un but, et cette action, je l'ai accomplie lentement, avec préméditation, comme disent les juristes. Cette action, je l'ai étudiée avant de la commettre, je l'ai recherchée comme un alchimiste cherchait l'or dans ses creusets. Puis, une fois découverte, fixée, résolue, je l'ai préparée avec amour, avec passion, avec rage, rage froide et calculée. Et enfin, je l'ai exécutée. Mais là, alors, que tout était fini, alors que j'avais réussi, pleinement réussi, je vous jure, est-ce que tout s'est borné là pour moi? Non. Il y a eu répercussion de joie en tout mon être, en toute ma vie. Et aujourd'hui encore, alors que je suis assez maître de moi pour comprendre que la mort va venir, je sens une jouissance indicible à tracer ces lignes, à me baigner de nouveau dans les ondes funèbres du souvenir, à entendre résonnant dans mon cerveau des cris et des râles qui sont mon œuvre. Et c'est au milieu de ces éclats bruyants pour moi seul que viendrait lourdement tomber le mot « repentir ». Mot nul, épais, ridicule, tu sonnes faux et froid, repentir. Mais qu'est-ce que cela? Que viens-tu faire ici alors que toute ma vie est l'expression de ce qui est absolument contraire au repentir, de la dégustation de l'acte accompli? Cet acte criminel, selon vous, justicier, selon moi, c'est ma vie, c'est mon bien, c'est l'épanouissement de mon être. Je n'ai vécu que pour lui. Je meurs avec lui, le conservant dans son intégrité, le berçant dans ma conscience, comme fait une mère de son enfant aimé. Me repentir, mais ce serait le renier. Et la mère ne renie jamais son enfant. Je l'aimais bien, Thornpike, nous avions été élevés ensemble. Ses souvenirs de joie augmentent ma satisfaction actuelle. Nul de vous ne l'a aussi bien connu que moi, et je ne puis en dire de mal. Oh, pas un reproche à lui adresser. Il avait toutes les qualités, toutes les délicatesses. Je me rappelle encore, oh, nous avions 20 ans tous les deux. Il était grand, brun, son œil était ouvert, bien fendu, ruisselant de franchise et de probité courageuse. Non pas un joli garçon, mieux que cela, une beauté forte et mâle. Il bondissait comme le cheval en liberté. Dans nos chasses, il franchissait les précipices, ne reculait devant aucun obstacle, et après quelques difficultés vaincues, il m'adressait un sourire franc et large sourire, à dents blanches et à lèvres rouges. Il brisait entre ses mains la branche la plus grosse, et avec cette force, doux comme un faon, timide même. En vérité, il n'osait pas regarder une femme, et celui qui rougissait le premier. Savant, il travaillait, toujours, toujours. Il avait l'esprit ouvert à ces sortes d'études, et il poursuivait aussi vigoureusement le problème que l'aurore dans la plaine. Tous deux, il les atteignait, les saisissait, les domptait. Tout le monde s'intéressait à lui, et il le méritait, de 100 façons. Jamais d'orgueil, devant le plus ignorant, il inclinait sa science. Au plus faible appartenait sa force, au plus pauvre il eût sacrifié sa richesse. Comment m'aimait-il? Pourquoi m'aimait-il? Pour cela même. J'étais le plus faible, j'étais le plus ignorant, j'étais le plus pauvre. Je n'avais rien fait pour mériter son amitié, loin de là. Un jour, j'avais failli être entraîné dans l'engrenage d'une machine en mouvement. Il s'était élancé, généreux, au risque de se faire briser, et il m'avait sauvé. Je lui devais tout, donc il m'aimait. Moi, il m'étonnait. Et c'est cet étonnement que je traduis par le mot affection. Moi, petit, je m'étonnais de cette taille supérieure, faible de cette énergie dominatrice, paresseux de cette obstination au travail. L'homme se sent écrasé par les amoncellements sauvages de la nature. L'aime-t-il ? J'aimais Turnpike comme le voyageur aime le gouffre. Lorsque je regardais en cet homme, je me sentais pris de vertige, effet d'éloignement, et je me disais « Mais je l'aime !» Du reste, il prenait soin de me dissimuler à moi-même mes imperfections. Un père n'eût pas été plus indulgent, plus attentif. Bref, tant il était habile dans sa bonté, j'en étais arrivé à ce point de ne plus me croire laid, lorsque j'eus une petite face pâle et terreuse, à ne plus croire chétif, quoique 10 livres me fatigassent. Je ne voulais point travailler. Avec lui, j'apprenais sans travail. C'est par lui qu'insensiblement je devins énergique et tenace. Ce qui était patience chez lui fut entêtement chez moi. J'étais un reflet, non, plutôt une déviation de cet homme. Je me repais de ses souvenirs. Je suis heureux de dire qu'il était beau, bon, parfait. Et quand je me répète à moi-même ces mots, je l'aimais, cet écho réveille en moi des jouissances inassouvies. Car ces mots, ces vocables qui sont le bien, se heurtent à d'autres pensées énormes, sinistres, hideuses, qui sont en moi aussi profondément enracinées que l'arbre le plus vieux de la plus antique forêt, pensées qui sont le mal. Je l'ai aimé. Disant cela, il me semble que je l'ai d'autant plus mieux haï. Aïe, quel mot froid et terne! Si je pouvais entasser toutes les exaspérations, toutes les rages, toutes les fureurs, toutes les tortures rêvées, toutes les infamies projetées par moi contre lui, jeter en un creuset cette sueur de haine qui pendant 30 années est tombée goutte à goutte de mon cerveau, qui de tous ses ingrédients produira un composé qui fut un mot, quintessence de ses rages et de ses fureurs, oh alors, comme le haine, paraîtrait nul. Et sait-on seulement ce que veut dire que haïr un homme, vouloir non pas seulement qu'il souffre et sanglote, mais vouloir être là, compter une à une les pulsations du torturé. Le bourreau qui brisait les membres du questionné eût été bien heureux s'il l'eût haï. Et encore il obéissait à quelqu'un, à des juges qui pouvaient crier « Assez !» Cessez. Quand je tiens, quand je puis moduler ces souffrances, les décupler pour les annihiler ensuite, les faire petites d'abord, si petites qu'ils les perçoivent à peine, puis sur cet horrible clavier hausser insensiblement le son par quart de ton, par dixième de vibration, si bien qu'il puisse parvenir à une puissance à peine rêvée dans les sphères infernales. Oui, j'ai su haïr. Attendez. La haine, je n'ai pas encore tout dit, doit, pour être réelle, ne pas procéder de la colère. Frapper dans un accès de fureur, c'est ou ne pas haïr, ou se retirer bénévolement la jouissance de la longue sensation de cette haine satisfaite. Oh, la première fois que je me dis « je hais cet homme », j'écoutais ce mot commun pour bien saisir toute la signification. Je me le répétais lentement. D'abord, il me résonna dans mon cerveau que comme une expression banale, antithèse du mot « amour ». Il appliquait alors un simple désir de vengeance. J'entends par simple le désir d'une vengeance brusque, élémentaire. Quoi ? Oh ben, un empoisonnement, un coup de couteau bien dirigé, fouillant en un élan jusqu'aux sources de la vie. Mais dès lors, je me dis, ce ne peut être là ce que je veux. Je sens que cette satisfaction serait incomplète. Alors, raisonnant par assimilation, j'étudiais le mot « amour » et la multiplicité des jouissances contenues dans l'assouvissement d'un désir, passé à l'état de besoin inéluctable, m'apparut dans toute sa netteté. « Toutes les passions sont adéquates l'une à l'autre, me disais-je, Toutes peuvent, procédant d'une même cause, atteindre un même paroxysme. Celui qui veut jouir de la satisfaction passionnelle dans toute son étendue doit avant tout étudier l'organe qui est en quelque sorte le moyen de cette satisfaction et le développer autant que la nature humaine le peut supporter. L'amant banal obtient sa maîtresse en frappant dès l'abord les plus grands coups. Il se laisse entraîner par l'attraction qui l'attire et lorsqu'il arrive à son but, il ne possède pas l'objet de son désir, il est possédé par lui. D'où jouissance incomplète. Celui-là est artiste qui sait, étudiant les nuances de sa propre passion, la retenant habilement, la comprimant, lui ouvrant une issue au moment choisi, profiter d'une concentration de force obtenue artificiellement. Et je voulus, prenant une à une mes facultés comme un ouvrier prend ses outils, étudier quelle partie j'en pouvais tirer au point de vue de ma passion haineuse. Il ne fallait perdre aucun des moyens de l'assouvir et au contraire affiler chacune de ses facultés afin de la rendre plus aiguë et au moment décisif, moment choisi par moi, achever l'œuvre dans son perfectionnement. Autrefois, on demandait à l'ouvrier un chef-d'œuvre. Il y rêvait d'abord, puis il faisait des économies pour acheter des outils du plus fin acier, et encore, les ayant achetés, il les revoyait, les étudiait, les essayait, les pesait dans sa main pour que ses doigts s'y habituassent, afin que nul ne pût glisser plus vite que sa volonté. Et lorsque tout était préparé, lorsqu'aucun détail n'était négligé, il se mettait au travail et le chef-d'œuvre était fait. Et j'ai voulu faire, moi, mon chef-d'œuvre de haine. L'ouvrier doit encore choisir la matière sur laquelle va s'exercer son habileté, la préparer et étudier si toutes les parties sont également aptes à recevoir les coups de ciseau. Moi, j'ai pétri cette matière pendant 10 ans avant d'y enfoncer mon scalpel. Elle était apte à souffrir. Pourquoi l'ai-je haï? Il faut que je me souvienne. Il faut que je retrouve brûlante l'étincelle qui alluma l'incendie dévorant. Sur mon âme, j'hésite à tout dire. Car ceux qui m'écoutent diront « Quoi, ce n'était que cela ?» Et lorsque je compterai une à une les tortures qui ont été ma vengeance, ils trouvant cela plus grand que ceci, eh, que m'importe après tout? Je suis moi dans toute la plénitude de ma vitalité et je sens encore aujourd'hui une main de fer qui me déchire la poitrine. Oh, cette nuit! Oh, cette nuit! Allons, ai-je donc encore un cœur? Si tu existes en moi, viscère lâche et pleurard, tais-toi et laisse-moi parler. Et pour quelques contractions que réveille encore le souvenir de son crime, je te promets les âpres épanouissements du souvenir vengeur. Est-ce qu'il n'y a pas balance entre le mal qu'il t'a fait et le mal que je lui ai fait? Sois franc, mon cœur. S'il y a défaut d'équilibre, n'est-il pas tout à mon avantage? Nous vivions à Greenhouse tous deux. Lui, bon. Moi, dans l'attente, ne connaissant pas encore ma destinée, frappant en vain mon cerveau pour en faire jaillir la pensée maîtresse. Elle vint. Elle, oh, il faut que je parle d'elle. Il faut que je la nomme. Clary, belle, oh oui, belle, oh, plus qu'il n'est permis à une créature humaine, et bonne, adorable, que sais-je? Est-ce que je trouve des mots, stupides adjectifs, eunuque baveux devant la reine du sérail? Puis avez-vous besoin de savoir quelle elle était? Vous auriez l'audace, plein valet, de créer cette reine dans votre imagination d'idiot. La créer, vous, mais la mouler dans votre cerveau, ce serait la profaner. Il ne faut pas, je ne veux pas, que votre pensée même la touche. Ce contact immatériel la souillerait. Je vous ai dit son nom. J'aurais dû le taire. Qui sait si elle ne vous a pas rappelé quelque ridicule beauté qui hier encore vous avez honoré de vos regards? Je te présente ma fiancée, dit Turnpike en souriant. Ah, mieux eût valu pour lui que sa bouche eût été à jamais cousue avec des cordes de fer. Il avait bien prononcé le mot fiancée. Et une idée jaillit aussitôt de mon cerveau, de ma conscience, de mon être tout entier. Et moi? Comprenez-vous ce que cela signifiait? Elle est là, elle. Et l'autre ose dire qu'elle est sa fiancée, c'est-à-dire qu'elle sera à lui. Et alors moi, que suis-je? Que serai-je? Que sera-t-il fait de moi? Ne suis-je donc rien? N'ai-je donc droit à rien? Oh, écroulement! Quand je l'avais vu instantanément, il s'était élevé en moi comme un édifice d'avenir, et ce mot fiancé était le marteau qui brisait cet avenir. Je ne répondis pas, je levai les yeux vers elle. Elle souriait aussi. Elle n'avait pas bondi sous l'injure, car c'était une injure de la dire sienne, quand je l'avais dans ma conscience déclarée à moi. Elle souriait, comprenez-vous cela? Donc c'était vrai, quoique incroyable. Elle acceptait, elle consentait, elle était complice de ce vol qui m'était fait, complice de cet assassinat accompli sur moi. Je souris et, rentrant dans ma chambre, j'écoutais ce bouillonnement qui murmurait en moi. Oh, rien de plus étrange en vérité que d'écouter son âme. Tenez, j'ai noté tous les bruits, toutes les pulsations. Il y eut d'abord un silence mat, froid, sombre. Quelque chose de comparable à l'extinction subite des lumières dans une salle de théâtre. Passage rapide de l'éblouissement à la nuit, du tout au rien. Puis ce fut comme un bruissement, réveil pareil de la vie et du mouvement. Mon âme avait reçu le coup en plein, elle avait chancelé, puis était tombée évanouie, étourdie. Et maintenant, voilà qu'elle se réveillait, mais avec ces sensations chaudes et étouffantes, éprouvées par l'apoplectique que le médecin vient de saigner. Elle s'agitait dans le rêve engourdissant, sans conscience d'elle-même, du lieu, du temps, de la cause, du fait. Et en même temps vint un tintement bruyant, heurtement de toutes les facultés de mémoire ou du raisonnement, tentant de se redresser en même temps. Pour moi, qui observais, il me semblait que mon âme eut un corps et fut composée de parties comme la matière. Il me semblait avoir sous les yeux un cadavre se ranimant par degrés, les yeux injectés, les tempes violacées. Ce cadavre dans lequel la vie s'infusait à nouveau, c'était mon âme. Elle ouvrit les yeux. C'est étrange ce que je dis là, mais c'est bien réellement ce que je vis en me regardant moi-même. Cette âme-corps se haussa sur le coude et se prit à rêver. Elle cherchait quoi? Ce que cherche l'homme qu'un coup de massue a renversé. Elle sentait, par un effort de préhension, de saisir le réel nageant dans le vague, ce point sur lequel son attention était toujours fixée, mais qui disparaissait, reparaissait sans cesse, ballotté par des flots intangibles. Et tout à coup, il y eut comme un écartement de voile, violent, subi, sans transition. Les idées éclatèrent autour de mon âme comme une lumière trop vive, se pressant, rayons de feu, se confondant et s'annihilant par leur splendeur non équilibrée, mais c'était le dernier effort. Le réel apparut enfin sous sa double forme nette, admirablement modelée, elle, lui. Antithétique l'un à l'autre, elle, éveillant toutes les forces de la vie, et lui m'écrasant tout entier comme un insecte sous le pied trop large du géant. Elle et lui avaient d'autres noms que cela. Ces deux expressions avaient leurs expressions corrélatives. J'en devinais une, celle qui correspondait à elle. C'était ce mot que mon âme prononçait en souffrant, tout entière, comme une bouche empourprée. Amour, amour, amour. Oh, qui pourra jamais dire ce mot comme le dit une âme qui souffre? C'est un son plein, unique et cependant modulé. Ce n'est pas une mélodie à son successif. C'est l'épanouissement synthétique d'une harmonie contenant tout ce qui est et tout ce qui peut être harmonique. C'est un faisceau de sens formant un bouquet. C'est amour. Puis, en le regardant, lui, cette âme se rétrécissait, se recroquevillait sur elle-même. Les lèvres se serraient contre les deux branches d'un étau, laissant dans le pli une ligne mathématique, impossible à décrire ni à tracer. Et de ce serrement, de cette issue inexistante, s'échappait une sorte de sifflement que j'écoutais. Oh, comme je cherchais à le percevoir, à saisir sa signification. Je ne compris pas tout d'abord, je crus que c'était le mot colère, le mot vengeance. Erreur là aussi. C'était en un son unique le résumé de toute une harmonie infernale. Ils sont partis, car ce n'est pas à Greenhouse qu'ils se marieront. Moi, j'ai refusé de les suivre. J'ai prétexté une indisposition, pas de banalité. Je serais allé au temple, je les aurais accompagnés jusqu'au seuil de la chambre nuptiale. Tout cela m'aurait préoccupé, détourné de mon but. Car j'ai un but aujourd'hui, je le connais. Et nul que moi ne le connaîtra tant que je vivrai. Excepté lui, mais alors, vivra-t-il? Non, je suis resté à Greenhouse. Je suis bien informé, c'est aujourd'hui qu'il se marie. Et je veux, seul avec moi-même, causer encore avec mon âme et étudier une à une ces hideuses sensations que je prévois et dont pas un frissonnement ne doit m'échapper. J'ouvre un grand livre et la journée et la nuit qui vont s'écouler doivent être inscrites à la page du débit. À la page du crédit, je ne mets qu'un mot, haine. C'était là ce que disait mon âme en son unique, résumant toute la symphonie de l'enfer. Ce jour commence. Je n'ai pas voulu en perdre une seconde, car je sais qu'en ces heures, je vivrai toute ma vie passée et tout mon avenir. Je me suis levé avant l'aube, seul dans la grande maison. Je me suis mis à la fenêtre. La nuit va finir. Le ciel a des teintes d'azur sombre, dernier effort des ténèbres contre la lumière inévitable. Les étoiles pâlissent parce que l'ennemi vient. Le soleil, qui les absorbe toutes, tirant jaloux dans son rayonnement. À cette heure, que font-ils? Ils ne sont pas encore unis. Ils forment encore deux personnalités distinctes, physiquement et moralement séparées. L'un ici, l'autre là, éloignés l'un de l'autre, au moins de l'épaisseur d'une cloison, d'un mur peut-être. Grand point, je ne perdrai pas un atome des sensations que je veux étudier. Je me promène dans le parc, j'ai besoin de cette fraîcheur, car tout à l'heure encore, je me suis aperçu que ma tête brûlait. Et je ne veux pas. Toute surexcitation irait en ce moment contre mon but. Je sais que je vais souffrir. Donc il faut que mon cerveau soit froid, que toutes mes facultés d'examen soient à l'état normal, afin que je puisse suivre les convulsions de mon âme, comme le chirurgien penché sur le corps du patient. C'est un terrible et difficile dédoublement à accomplir. Oh, j'y parviendrai. 8 heures. Ils sont levés, oh, ceci ne fait pas de doute. Quoique je ne vois pas, je sais. Car il y a quelques minutes, il s'est produit un choc en moi. Ce qui s'explique. Une partie de ma force initiative est dirigée vers lui, l'autre vers elle. Quand ils se sont serrés la main, il s'est trouvé que ces deux parties du moi se sont touchées, combinées. Mais maintenant, l'objet de l'étude, quoique double en essence, est simple en pratique. Mes dents se sont serrées, le sang a battu mes tempes. Ceci est mauvais. Je ne veux pas que mon corps partage les angoisses de mon âme. Oh, ce ne sera ainsi que pendant les premières heures. Peu à peu, je me dominerai mieux. Il ne s'agit pas seulement ici de sourire, tandis que mon cœur éclate. Il faut que mon corps tout entier soit indifférent, neutre. Plus encore, il faut que de mon cerveau, je fasse deux parts. L'une conservant intacte, calme, ses facultés analystes, l'autre au contraire, livré à la douleur comme le corps d'un nègre aux dents de la bête féroce. Le cerveau analyste regardera le cerveau torturé. C'est une division de fibres qu'il s'agit d'accomplir. Oh, cette lutte est terrible. L'équilibre s'établit difficilement. Midi. Je me relève, mécontent de moi-même. Tout à l'heure, j'ai senti qu'ils entraient au temple et je suis tombé à terre comme une masse. Je n'ai pas été maître de mon sang qui affluait au cerveau comme si la digue, ma volonté, se fût tout à coup rompue. Il faut avoir recours à des moyens humains, de l'eau sur la tête, sur le front, sur tout le corps. Si cet évanouissement avait duré, comprenez-vous que je ne serais pas senti souffrir. Et c'est justement cette sensation que je veux. Cette eau m'a fait du bien. Étudions maintenant. Ah, mon âme, je vois ce qui t'a frappé. Je comprends le choc qui s'est répercuté sur mon corps. Quand on monte une côte élevée, l'ascension est lente, on va péniblement, on monte encore. Puis tout à coup, en un point unique, on se retrouve sur un plan. L'ascension est finie, la descente va commencer. En ce seul point, on ne montait ni on ne descendait. Et au moment où le pasteur les a unis, j'ai achevé de monter la côte. Je me suis trouvé sur ce point mathématique qui sépare les deux déclivités. En ce lieu, il y avait pour moi fin du passé, commencement de l'avenir. Je ne suis plus l'homme que j'étais tout à l'heure. L'avouerai-je, tout à l'heure, il y avait encore en moi je ne sais quelle folle lueur d'espoir. Si cela n'était pas, oh, cela est. J'étais le torturé qui doute alors même qu'il voit les instruments grincer devant lui de leurs dents de fer, qu'on applique sur le chevalet et qui doute encore. Mais tout à coup une vis a tourné, il a senti le croc mordre sa chair, et il s'est dit dans une pensée à peine saisissable, « C'est fait ! Or, le croc m'a mordu. » Eh bien, les martyrs chrétiens au milieu des tourments, par une opération d'hypnotisme inconscient, ne sentaient plus la torture, et regardant leur corps déchiqueté, pensaient au ciel en qui ils croyaient. Moi, je regarde mon âme pantelante sous ce brisement, et je pense, oh, pas au ciel, je vous jure. Ah, que cette journée passe lentement. Il est des minutes où je me sens lâche. Je voudrais crier. Eh bien non, je ne crierai pas, je ne pleurerai pas. Que d'autres s'enfoncent dans leur poitrine, leurs ongles qui s'ensanglantent. Moi, je veux être le spartiate dont le renard dévorait les entrailles. Je compte ces griffes qui fouillent dans mes viscères. Et je ris, oui, sur mon âme, je ris, heureux de l'effroyabilité de ma souffrance. Tant mieux par l'enfer. Crispe-toi dans les angoisses, ô mon âme. Chacun de ces plis, sillon creusé par la douleur, restera comme une ligne de plus au livre des souvenirs. Et quels souvenirs ! Nage dans cet océan de désespoir, n'oublie rien. Songe à ces serrements de main, songe à ces regards échangés, songe à son espoir à lui, à sa crainte pudique à elle. Songe, mais songe-y bien, et que dans quelques heures la nuit viendra. Tu sais ce que cela signifie, mon âme. Repais-toi de cette attente, prépare-toi, car je ne te ferai pas grâce d'un seul de leurs baisers. Elle est venue enfin, cette nuit attendue. Je suis aussi calme que possible. Tenez, je tiens la plume et elle ne tremble pas dans ma main. La volonté a triomphé complètement, orgueilleusement. Je regarde presque avec pitié cette âme qui se tord et veut échapper à l'horrible étreinte. Non, non, viens ici et regarde. La vois-tu, elle, comme elle est belle? Reconnais-tu ce regard qui t'a fait comprendre la vie? Et lui, comme il est beau aussi, comme ils sont faits l'un pour l'autre. On vient de les laisser seuls, elle rougit, lui se tient à l'écart. Il la regarde et ses yeux semblent deux phares d'amour. Il semble lui demander pardon de la posséder. Et ce regard à elle répond: « Comme je suis heureuse d'être à toi. Oh, ne crains pas, mon doux fiancé. Je me suis donné librement, je t'aime. » Quelle voix pénétrante! Écoute bien cela, mon âme. Jamais tu n'entendras semblable mélodie. Épelle ces trois mots, je t'aime. Il est venu tomber à ses pieds, et elle, mettant ses deux belles mains sur ses cheveux, a doucement relevé son front et l'a baisé. Savoure bien ce baiser, mon âme. As-tu compris ce qu'il signifie? Mais oui, oui, tu auras beau te débattre, il faudra bien que tu vois tout, tout. Prête l'oreille à ces doux murmures qu'échangent les lèvres qui se joignent. Sens la caresse de ces deux souffles qui se confondent. Aspire cet amour. Sont-ils assez proches l'un de l'autre, hein? Il a détaché son peigne et ses admirables cheveux blonds sont tombés sur ses épaules. Et encore elle a souri. Là, mon âme, en face de cet amour, commences-tu à savoir ce que c'est que la haine? Regarde, regarde encore. Le matin est venu.